Bonjour et bienvenue dans Vive le cinéma, une émission de cinéma d'Aligre FM 93.1, réalisée ce matin par Enrico Mastro Giovanni et Luca Peinture. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, et c'est un nouveau rendez-vous que nous vous proposons une fois par mois, une table ronde critique sur quelques films sortis dans les salles, et peut-être ailleurs, sur quelques plateformes d'ailleurs, on ne sait jamais. En compagnie des animateurs de Vive le cinéma, à savoir Pierre Charpillos, Benoît Basirico et Bernard Payan au micro. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Nous passerons en revue quelques films à voir ou à ne pas voir en ce moment au cinéma. Et pour commencer ce matin, 5 films au programme. Je les donne peut-être ? Qui veut les donner ?
Vas-y, donne-les.
Oui.
Allez, La Bête de Bertrand Bonello qui est sorti cette semaine. L'Homme d'argile d'Anaïs Télène qui est sorti quelques semaines déjà, il y a quelques semaines. Zone of Interest de Jonathan Glazer. Les Chambres Rouges de Pascal Plante et Dali
de Quentin Dupieux. 6A.
Voilà.
Il faut bien compter parce que quand on l'écrit, on hésite toujours, mais c'est bien D-A-A-A-A-A-A-A-L-I.
C'est sur cette musique de La Bête de Bertrand Bonello que nous ouvrons cette émission. La musique est d'ailleurs composée par son réalisateur Bertrand Bonello, qui est un des réalisateurs-compositeurs français qui a les deux casquettes. Cette fois-ci, d'ailleurs, il s'entoure de sa fille pour cette musique. Musique expérimentale, aussi expérimentale que le film, Pierre.
Et oui, c'est le nouveau film de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux qui est presque de tous les plans. C'est un film sûr et avec Léa Seydoux et Georges Mackay. Également, dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle, les émotions humaines sont devenues une menace. Pour s'en débarrasser, Gabrielle doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Elle y retrouve Louis, son grand amour, mais une peur l'envahit, le pressentiment qu'une catastrophe se prépare. C'est une adaptation libre de La Bête dans la jungle d'Henry James, qu'on a déjà vu d'ailleurs au cinéma il n'y a pas très longtemps avec La Bête dans la jungle, le film de Patrick Chia, dont on peut voir un peu des ressemblances, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les deux films, puisqu'il y a notamment plusieurs scènes de fête à des époques différentes qu'on voit dans La Bête de Bertrand Bonello. Le personnage va dans une boîte de nuit dont le titre de la boîte de nuit est le nom d'une époque, les années 80, les années 60 ou les années 90, et c'est le thème, le sujet principal de La Bête dans la jungle de Patrick Chia, où on voit une boîte de nuit évoluer à travers les années. Donc c'est assez drôle cette multiplication des adaptations d'Henry James avec des lectures finalement assez similaires de la part de cinéastes contemporains. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Bernard, Benoît ?
Je ne sais pas vous, mais moi c'est mon coup de cœur du mois, hein. C'est vraiment pour moi un véritable choc. J'ai mis du temps à vraiment apprivoiser le cinéma de Bertrand Bonello. Moi c'est à partir peut-être de Nocturama que j'ai vraiment adoré le cinéma de Bonello. L'Apollonide qui s'était fait encenser, j'avais eu des réserves. Il y avait un côté un peu formaliste, un peu poseur qui me posait toujours un peu un problème chez lui. Mais en fait là je suis vraiment conquis. C'est pour moi son chef-d'œuvre. Et alors, par rapport à Patrick Chia, par exemple, qui est finalement, malgré les différentes époques, plutôt linéaire, avec un huis clos duquel on sort très peu. Là, dans ce film de Bonello, il est foisonnant, il est hybride, avec différents traitements d'images. On est à la fois à la bougie dans le film historique, que dans des films, des images de vidéosurveillance quand on est dans la maison de Los Angeles. C'est un peu, je trouve, dans le récit très très audacieux, une manière finalement de raconter trois fois la même histoire, avec des registres d'images et des époques et des genres cinématographiques, hein, de la romance au film d'horreur, en passant par la science-fiction. Donc ce côté plusieurs films en un m'a vraiment conquis, ce côté baroque, ce foisonnement. Finalement, j'ai vécu ce film comme chez Lynch, en fait, comme un labyrinthe, où j'ai aimé m'y perdre, à l'image de cette héroïne, Léa Seydoux, qui est un peu dans une impasse amoureuse, en quelque sorte.
Moi, je suis un peu perdu dans le labyrinthe, mais en même temps, je suis prêt à retrouver le chemin quand c'est possible. En tout cas, moi, ce qui... Bon, après, il faut un temps, je pense, pour aussi absorber, digérer le film. Je l'ai vu ce week-end et je pense que j'en ai besoin. Et je pense que c'est un peu comme comme le film, l'histoire de timing amoureux. Hein, c'est ça, la nouvelle d'Henry James aussi. C'est-à-dire que comment on fait, finalement, pour se retrouver l'un en face de l'autre, amoureux à un moment donné, enfin, quitte à traverser des époques comme dans le film de Bonello. Et c'est vrai que parfois avec un film c'est aussi la même chose, il faut trouver aussi le bon timing. Pour l'instant il n'est pas encore tout à fait calé. Après je reconnais que c'est un Bonello important, enfin, avec une grande forme on pourrait dire, enfin, par rapport à ses films précédents, les deux derniers en tout cas qui étaient un peu plus mineurs peut-être, je sais pas, peut-être
Coma et Zombie Child,
voilà, en tout cas qui était moins ample. Ça c'est vrai qu'il y a une amplitude indéniable de par les époques et de par voilà, mais après, je trouve le film un peu trop long. Enfin, c'est toujours un peu compliqué de dire ça parce que ça veut rien
30,
dire.
Hein, quelque chose comme ça.
C'est 2h30. Ouais, c'est quand même un peu. C'est quand même. Voilà, il faut quand même on les sent passer avec des accélérations. Et je trouve il y a des scènes assez spectaculaires. Hein, il y a même des scènes avec des prises de vue sous-marines parce que il y a une question d'une inondation dans la période, en tout cas 1910 à Paris. Et puis la scène de tremblement de terre à Los Angeles. Donc il y a la catastrophe est là, puisque largement question de catastrophe dans le synopsis. C'est une des formes de catastrophe qui arrive, en tout cas. Voilà, donc je trouve que le film est un peu trop théorique pour moi. Enfin, c'est un peu un comble parce que ça parle de ça, ça parle du problème des affects. Le personnage de Léa Seydoux est confronté justement à l'intelligence artificielle qui lui demande de ne plus avoir d'affect. Et j'ai l'impression qu'on est spectateur aussi dans cette position-là, finalement, de ne plus avoir d'affect vis-à-vis du film. En tout cas, je n'ai pas été ému, moins ému qu'avec la version de Patricia. Donc voilà. Pierre, peut-être ?
Quand j'étais au lycée, en internat, on se partageait comme ça des films sur format DivX, sur un disque dur. Et il y avait un espèce de film qui était culte auprès des lycéens, que j'ai toujours détesté, qui s'appelait The Fountain, de Darren Aronofsky.
Oula, oui.
Qui se passe comme ça sur différentes époques. Et j'ai un peu l'impression de retrouver tout ce que j'aimais pas dans The Fountain, c'est-à-dire ce côté à la fois faussement grandiose et faussement intellectuel, réfléchi, etc. Alors que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma de Bertrand Bonello, et au contraire, j'avais beaucoup aimé ses deux derniers films, et même son dernier film, Coma, qui était très simple, toute petite chose, filmé pendant le confinement, avec un moyen très précaire, aussi presque expérimental par moment, mais dans cette expérimentation qu'on retrouve dans La Bête, il y a quelque chose d'assez émouvant, c'est-à-dire qu'on sentait qu'il testait des choses, que parfois ça fonctionnait, parfois ça fonctionnait pas, mais c'était fait avec beaucoup de... C'était fait de manière très humble, en fait, je trouve. Ce que j'ai pas l'impression de ressentir beaucoup dans La Bête, et je trouve aussi que ça souffre effectivement beaucoup de la comparaison avec La Bête dans la Jungle de Patrick Chia. Et pour te rejoindre à 100%, Bernard, dans La Bête dans la Jungle, c'était un film sur la mélancolie, sur la nostalgie, et donc effectivement sur l'émotion. C'était un film très émouvant. Et là, c'est un film très théorique. C'est un film très amoureux de son actrice principale aussi, peut-être un peu trop. Et finalement, c'est un film dont on s'ennuie quand même plutôt pas mal. Mais je vois Benoît...
Bah, je suis le seul, du coup, à défendre ce film, donc je vais reprendre le micro pour...
Alors, le dernier mot, c'est
ça. Non, pas le dernier mot particulièrement. Dans ce que je viens d'entendre, d'ailleurs, dans tout ce que tu viens de dire, Pierre, j'aurais pu détester le film avec les critères avec lesquels tu as vécu cette expérience. Et moi... Également, je n'ai pas aimé The Fountain, mais au contraire, moi, je suis vraiment rentré dans cette expérience de manière viscérale. En fait, j'ai vécu ça non pas de manière théorique, mais de manière physique. J'ai vécu cela avec des scènes que j'ai trouvées sidérantes, comme des fulgurances, en fait. La noyade, on en a parlé, cette scène aquatique subjugante. Le tremblement de terre, l'attente d'un tremblement de terre dans cette maison californienne. Et puis également l'attaque aux pigeons, qui rappelle les oiseaux. Mais il y a comme ça du cinéma. Alors évidemment, Bonello rend hommage aussi à ses maîtres, cette histoire de serial killer aussi. Donc en fait, il y a un cinéma qui vient de manière presque réflexive contaminer cette histoire. Et moi, je l'ai vécu non pas de manière théorique, mais de manière vraiment viscérale et surtout de manière presque anxiogène, en fait, cette angoisse, l'attente d'une catastrophe. Et j'ai trouvé ça bouleversant par rapport à l'époque d'aujourd'hui, où on est constamment aujourd'hui, d'où qu'elle vienne, dans un pressentiment d'une catastrophe imminente. Et j'ai trouvé finalement, pour la première fois dans le cinéma de Bonello, un film en phase avec son époque. Et ça, j'ai trouvé ça émouvant, sidérant, en fait. Et en plus, par rapport à Léa Seydoux, donc évidemment, on voit que Bertrand Bonello, alors il faut le dire avec des pincettes aujourd'hui, mais je pense que Bonello, il est à la bonne place, en tout cas, de cette question d'adorer son actrice. C'est-à-dire qu'il adore pas l'actrice Léa Seydoux, il adore l'image de l'actrice. Donc lui, il s'en fout en fait de son corps. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'image, la lumière, son visage impassible, sa froideur même. Il la filme comme une image en quelque sorte. Et Léa Seydoux, c'est pour moi son meilleur rôle. Il la filme dans une scène de tournage sur fond vert. Donc c'est aussi un film comme le making of du travail d'une actrice. Le documentaire sur une actrice. Donc ça, voilà, ça participe aussi à ce foisonnement du film. Voilà, mais je peux ne pas avoir le dernier mot.
Après, il a fait un film qui était très en phase avec son époque, peut-être plus encore que celui-là, à mon avis, c'était Nocturama, qui était vraiment le film d'une époque. Et on sent qu'avec ce film, il a envie d'être en phase avec son époque, et ça se ressent dès le générique de fin, avec ce QR code qui remplace un générique, qui est un peu un clin d'œil en disant voilà, je fais un film ultra moderne. Il suffit de scanner, mais le problème, c'est que si vous allez le voir à l'UGC Léal, où il n'y a pas de réseau, vous ne pouvez pas scanner avec votre téléphone, vous n'avez pas accès au générique, ce qui est mon cas.
Quand on fait, on a une image qui apparaît. Une image,
ah oui,
une image fantôme. Ouais.
Ah, donc on n'a pas un générique, on a autre chose.
On a un générique, mais on a aussi une image.
Une image
supplémentaire.
Oui,
faut pas le dire.
Oui, exact. L'un des personnages du film.
Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film.
J'ai 2h30, ça suffisait.
Et par rapport à Nocturama, en fait, donc, qui était l'un des précédents films de Bonello, et en fait, moi, ce que j'ai entendu de la part de Bonello, c'est qu'il a presque subi le fait d'être en phase avec son époque. C'est-à-dire que lui, il avait écrit un scénario sur des terroristes anticapitalistes, et il y a eu le Bataclan, et au final...
Non, mais il n'est pas en phase à son époque à cause des attentats. Enfin, pas que à cause de ça, il est en phase avec son époque dans la manière dont il... Parce qu'effectivement, on a beaucoup reproché ça, et on va aller peut-être un peu vite sur Nocturama, mais avec les attentats, le film raconte des attentats, mais c'est aussi en face sur la jeunesse, la désillusion de cette jeunesse, son lien un peu paradoxal entre une espèce d'anticapitalisme et un amour quand même de la société de consommation. Donc il y avait quelque chose d'assez juste qui était saisi là et qu'on a retrouvé un peu dans Coma, qui était un peu la suite spirituelle de Nocturama. On avait aussi une tentative de comprendre, pas toujours réussie, mais intéressante malgré tout, la jeunesse contemporaine. Mais voilà, je le retourne, il faut peut-être que nous passions au film suivant, t'as vu, comme j'ai réussi à avoir le dernier mot.
Bravo Pierre.
La technique.
On va rappeler juste la bête.
La bête de Bertrand Bonello.
T'aurais pu avoir le dernier cri, comme Léa Seydoux.
Voilà, c'est ça, mais je ne risquerai pas de l'imiter.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Très belle partition à l'instant signée Amaury Chabotti pour le premier film d'Anaïs Tellen, L'homme d'argile. On vient de l'entendre dans les notes de cette partition orchestrale, une soif de romanesque. D'ailleurs, on dit qu'il y a de moins en moins de thèmes de mélodie au cinéma, et là on retrouve la soif de la mélodie, la soif du thème. Ce premier degré, on va dire, une soif d'un cinéma ancien, on va dire, proche du conte. Et ça se retrouve donc dans cette partition où on retrouve cette sonorité de la harpe également. L'homme d'argile.
L'homme d'argile, donc un film d'Anaïs Tellen avec Emmanuel Devos, Raphaël Thierry. Raphaël, donc le personnage principal, n'a qu'un œil, il est le gardien d'un manoir dans lequel plus personne ne vit. À presque 60 ans, il habite avec sa mère un petit pavillon situé à l'entrée d'un grand domaine bourgeois. Entre la chasse aux taupes, la cornemuse et les tours dans la Kangoo de la Postière, les jours se suivent et se ressemblent. Par une nuit d'orage, Garance, l'héritière, revient dans la demeure familiale. Plus rien ne sera jamais pareil. Voilà, c'est le synopsis de ce film que je n'ai pas vu. Donc je vous laisse.
Ah, d'accord, parce que j'ai l'impression que le ton était orienté, mais en fait.
Ah, non, pas du tout. Pas du tout. C'est le ton, la manière dont tu as écrit ce synopsis.
Oui, premier film d'Anaïs Télène, et c'est une réussite en tout cas pour moi. C'est un film assez passionnant. Effectivement, la musique a un rôle très important dans le film à bien des égards. On a entendu un extrait, mais il y a d'autres extraits, d'autres musiques dans le film. Le personnage principal joue de la cornemuse et joue dans un groupe. Donc ça, c'est aussi une autre entrée de musique dans le film. Anaïs Télène, elle participe avec ce film-là au fameux renouveau du cinéma fantastique français dont on parle beaucoup en ce moment. Elle a écrit aussi le scénario de L'Englouti, qui est un film de Louise Aymon en tournage, qui sera également un film fantastique. Là, c'est un conte fantastique. On pourrait appeler ça comme ça. Ça donne vraiment l'impression d'un rêve éveillé. Il y a une impression très somnambulique dans ce film, qui commence dès le début avec cette aquarelle, cette musique symphonique, ce personnage mystérieux qui commence à attraper des taupes au début du film, et puis l'arrivée de nuit de cette artiste contemporaine, Garance, interprétée par Emmanuel De Vos. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de... Voilà, est-ce qu'on est dans la réalité? Est-ce qu'on est dans le rêve? On peut penser évidemment dans cette histoire très étrange entre les deux personnages et la Belle et la Bête. C'était une référence assumée de Cocteau par Anaïs Télène. Et tout part vraiment de ce personnage, quoi. De ce personnage incarné par Raphaël Thierry, qui est vraiment en plus la muse. C'est toujours intéressant d'avoir une muse masculine pour une cinéaste, puisqu'il avait déjà joué dans les courts-métrages précédents d'Anaïs Télène, notamment Le Mal Bleu, qui racontait aussi une relation très, très particulière et avec là, beaucoup de jalousie. Ce qui est intéressant dans le film, c'est vraiment ce paradoxe intéressant dans la façon de créer par la mise en scène une distance, une stylisation brechtienne presque, et en même temps, pour le coup, d'aboutir à une émotion. Et là, en tout cas, ça marche sur moi. Ça marche plus que dans le film de Bonello. Ce paradoxe-là, en tout cas. Et puis voilà, c'est très intéressant et étonnant aussi cette façon dont les légendes, les mythes affluent dans le film, notamment la statuaire, le golem. Il y avait au départ, ça j'avais eu la chance de lire le scénario à la base le film qui s'appelait Du Grand Feu, Ne Reste Que Les Braises, et il y avait une autre dimension qui n'est plus dans le film, qui est une dimension autour du mythe de la nuit d'un Saint-Jean. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de nourrir en tout cas cette relation étrange entre un homme et une artiste contemporaine, d'une manière de l'inscrire vraiment dans une forme de légende et de mythe.
Oui, alors il n'y aura pas débat, puisque j'ai aussi beaucoup aimé ce film, qui est pour moi une belle découverte, un premier film. On ne connaissait pas le cinéma d'Anaïs Télène, si ce n'est quelques courts-métrages. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est quelque chose qui va là très rare dans le cinéma français, c'est cette manière de marier les contraires, de marier le trivial et le romanesque, et à travers un portrait d'un personnage très peu filmé. Ce qui est intéressant, en fait, c'est comment elle va s'attaquer à des personnages comme ce physique hors norme de Raphaël Thierry, des personnages... Il y a peut-être que Alain Guiraudy, pour filmer avec cette trivialité-là des personnages qu'on a très peu l'habitude de retrouver dans le cinéma. Elle déplace le glamour en quelque sorte, et d'ailleurs elle le met en abîme, puisque cette actrice Emmanuelle De Vos, Garance, sculptrice, va s'intéresser à ce physique hors norme. Donc il y a cette mise en abîme de s'intéresser à un corps très très peu représenté en fait, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va le magnifier par son cinéma. Elle va ajouter du romanesque, de la poésie et de la grâce à cette trivialité. Donc c'est un peu comme si on ajoutait du conte à Alain Guiraudy, en quelque sorte. Donc ça, c'est assez beau, je trouve, voilà, de déplacer. Et en plus, elle ose l'érotisme, parce qu'elle érotise, en fait, ses corps. Et elle revisite aussi les rapports de classe, puisqu'il y a La Belle et la Bête, évidemment. Il y a ce rapport de classe où il y a la princesse qui retourne dans son château. Celui qui travaille dans le château, ce misérable, va justement... s'élever socialement grâce à uniquement son physique, en quelque sorte, qui va rencontrer un regard. Donc ça, je trouve ça très très beau. Plein de sujets qui se rencontrent, plein de contraires. Il y a le jeu du miroir aussi, où finalement, ce que je trouve très émouvant, parce que moi je suis toujours en quête d'émotion dans un film, et là ce que je trouve émouvant, c'est que ce personnage hors norme, qui n'a pas confiance en lui, eh bien, à travers un regard porté sur lui, va retrouver une confiance dans l'image de soi. Et ça, je trouve ça très très... très beau. Et ça passe d'ailleurs par son instrument qui est la viole de gambe, la cornemuse plus exactement. Mais dans le film, elle se marie avec une viole de gambe. Donc du coup, ce qu'on entend n'est pas toujours ce que l'on voit. C'est ça aussi toute l'audace de la musique. Et ce qui est intéressant, c'est comment cette cornemuse va... Il y a une scène magnifique où il se produit en concert. Et à un moment donné, il se fait applaudir. Et on voit son regard, sa larme qui coule. C'est-à-dire qu'il est ému d'être applaudi. Et c'est à ce moment-là, grâce à cette confiance acquise, qu'il va retrouver la sculptrice dans le château et sous une pluie d'orage. Et ce moment magnifique, tous les éléments convergent. Il y a l'orage qui est comme pour le soutenir. Il retrouve le château avec l'orchestre qui se joint à la cornemuse. Donc ça, c'est une scène vraiment de pivot dans le film où c'est le moment où ils retrouvent la confiance et où va advenir ce qui va advenir sans le révéler.
Oui, puisque je trouve, pour terminer, très beau, c'est la manière aussi dont, sans révéler la fin, mais comment, finalement, ce que tu disais sur le romanesque et sur le... Voilà, ce qui nourrit des histoires improbables et singulières peut nourrir une œuvre d'art aussi. Enfin voilà, il y a un truc comme ça de quelle est l'histoire des œuvres d'art qu'on trouve dans les musées. Parfois il y a des histoires incroyables et des histoires romanesques et c'est ce que raconte aussi le film.
Et Raphaël Thierry qui se fait souvent appeler joue souvent des personnages qui s'appellent Raphaël dans des films. C'est le cas dans L'Envol de Pietro Marcello où il... Alors, j'ai pas vu ce film d'Anaïs Télène, mais ça m'a l'air de ressembler beaucoup à ce personnage qu'il avait dans L'Envol et qui était effectivement un rôle à sa mesure. Et on parlait de Léa Seydoux filmé amoureusement. Il y avait quelque chose un peu de ça aussi dans L'Envol. Et j'ai l'impression peut-être quelque chose de ça aussi dans L'Homme d'Argile. C'est-à-dire, on filme aussi ce corps, cet homme, plus qu'uniquement cet acteur.
Oui, l'acteur se confond avec son personnage, sachant que Raphaël Thierry, dans la vie, est un musicien de cornemuse qui se produit en concert de musique traditionnelle. Donc, il y a aussi le portrait de l'acteur qu'Anaïs Télène a voulu faire.
Raphaël Thierry, qu'on voit aussi dans Pauvre créature, et qui a un rôle assez étonnant.
Disons. Étonnant, exact. Et Raphaël Thierry, qui a été déjà présent dans un court-métrage d'Anaïs Télène. Donc, c'est aussi sa muse, en quelque sorte.
Même plusieurs.
C'était L'Homme d'Argile. Après L'Homme d'Argile d'Anaïs Télène, on change complètement de registre avec ces notes très dissonantes, très angoissantes, cette musique de Mika Levy pour Jonathan Glazer sur Zone of Interest. Ils avaient déjà signé ensemble Under the Skin en 2014, une BO exemplaire. Là, cette musique joue moins le rôle d'une musique que le rôle d'une sirène, d'une alarme. Elle participe finalement, cette partition, à saturer l'espace sonore et à jouer le hors-champ sonore justement pour représenter l'irreprésentable.
La zone d'intérêt, The Zone of Interest, donc le nouveau film de Jonathan Glazer avec Christian Friedel et Sandra Hüller, le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss et sa femme Edwige s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Qui commence, Bernard, c'est peut-être le grand film de ce mois-ci, je ne sais pas ce que t'en penses. Voilà, j'annonce ça comme ça de manière définitive, mais tu peux me contredire.
Forcément, c'est le grand film de ce début d'année. Alors après, avec un parti pris très fort, mais qui est lié à ce point de départ, comment représenter l'irreprésentable, c'est ça qu'on se pose toujours comme question pour filmer la Shoah. Et là, le parti pris, effectivement, c'est de filmer tout le hors-champ. Il y a un parti pris très fort. Évidemment qui est clivant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent dedans, des autres qui ne rentrent pas dedans, et qui même sont gênés par le fait qu'on ne voit rien. Moi je pense que c'est un film absolument incroyable et très fort, je participe vraiment, je suis complètement d'accord avec ce parti pris là. Évidemment, on peut pas parler du film sans parler du travail immense de Johnny Byrne qui a créé cette bande son qui est à la fois incroyable et en même temps atroce. Enfin, en tout cas, qui nous rend extrêmement nauséeux et extrêmement pas bien en sortant du film, puisque voilà, c'est évidemment tout ce qu'on peut entendre comme bruit de ce qui se passe dans ces camps et des coups de feu, des espèces de vrombissements continus qui rend extrêmement mal à l'aise, en contrepoint de voir cette famille bourgeoise nazie qui vit au quotidien sans réagir le moins possible à ce qu'on entend. Donc voilà, je trouve ça, ce parti pris là, très très fort. Après, avec une question, c'est à qui s'adresse-t-il ? Il faut, je pense, pour voir le film, avoir quand même un minimum, savoir un minimum ce qui s'est passé à Auschwitz, parce que Glaser raconte l'anecdote, voilà, de en fait la difficulté de raconter à une équipe technique sur le tournage, de leur expliquer ce qu'ils tournaient, puisqu'évidemment il n'y avait pas la bande son sur le tournage et ils ne filmaient que des choses sans intérêt pour le coup. Et c'est vrai que le film, on peut comprendre le film uniquement que quand on a un certain background, on va dire. Et Benoît, tu voulais...
Non, mais j'avais découvert le film à Cannes et je ne l'ai pas revu depuis. Et je restais à Cannes sur une très bonne impression, que j'avais vraiment pris le film à Cannes vraiment comme une claque. Après, j'y ai repensé, j'ai lu beaucoup de choses dessus. Ça n'a pas forcément enlevé le plaisir que j'ai eu. Enfin, le plaisir, je ne sais pas si on peut parler de plaisir, justement. Mais en tout cas, la claque que j'ai prise en voyant le film n'a pas été remise en question dans ce que j'ai lu. Mais par exemple, il y a certains propos même de Glaser lui-même que j'ai pas forcément apprécié. Par exemple, j'aime pas forcément comment Glaser parle d'ambiance génocide. Je trouve ça un peu malsain. Donc finalement, dans le film, moi je trouvais qu'il y avait quelque chose de décent à ne pas filmer, à ne pas représenter la Shoah, mais en même temps, dans ce que j'ai pu lire des propos de Glaser, j'ai trouvé beaucoup de choses obscènes, en fait. Et donc, sans remettre en question l'intérêt pour le film, je trouve que le film se situe finalement à mi-chemin, entre la décence et l'obscène. Et finalement, peut-être qu'on peut considérer ce film comme un post-lansmanien. Donc je m'explique, c'est-à-dire que Lanzmann, c'était, suite à Capot, cette histoire de pas de travelling pour la Shoah, il ne faut pas créer de la fiction, il ne faut pas représenter. Donc, vraiment, juste filmer les témoignages, le Shoah de Lanzmann, Lanzmann lui-même qui a d'ailleurs attaqué la liste de Schindler en son temps, donc ne pas faire de blockbuster filmant les camps. Et ensuite, donc, on a été pendant de longues années dans cet irreprésentable-là. Et finalement, dans ce film-là, il va au bout, presque à un point limite de l'irreprésentable, en passant de l'autre côté, c'est-à-dire en représentant tout, mais uniquement par le son. Donc cette idée où tout passerait par la bande-son, donc du coup c'est une autre manière d'aborder la question de cet irreprésentable-là, en étant finalement à côté, géographiquement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le camp, mais on est juste à côté, donc tout existe, tout est là, tout est représenté, mais dans ce décalage finalement géographique, spatial, puisque tout se passe donc dans cette zone d'intérêt, c'est-à-dire vraiment toutes les habitations à côté. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, au-delà de cette question de Lanzmann et de cette représentation-là, moi ce que j'ai aimé c'est l'horreur qui finit par contaminer le quotidien. C'est-à-dire qu'on est avec des enfants insouciants qui jouent comme tout enfant. Donc il y a ce contraste de justement cette distraction alors que l'horreur a lieu à côté. Et progressivement, l'horreur vient contaminer ce quotidien. Un exemple, à un moment donné, ils sont en train de fertiliser une terre pour faire pousser les plantes avec les cendres qu'ils ont récupérées du camp. Et donc cette manière que l'horreur vient ressurgir crée un malaise, un inconfort auprès d'une population qui sont complètement dans ce décalage insouciant. Donc ça, c'est ce que j'ai aimé, cette manière qu'a l'horreur progressivement de contaminer ce quotidien.
Allegre FM 93.1.
Alors, bon, moi, je suis pas du tout d'accord avec, en tout cas, ce que tu disais sur Jonathan Glaser. Pierre, tu l'as interviewé, en plus, l'interview est à lire dans ce film.
Bon, oui, effectivement, je dirais un mot sur Jonathan Glaser, mais peut-être pour commencer, c'est vrai, pour te rejoindre, Benoît, que depuis le fameux article sur le travelling de Capot par Jacques Rivette, de l'abjection dans les cahiers du cinéma, la question de la représentation de la Shoah au cinéma est devenue un peu un point limite de la représentation, et il y a eu beaucoup de films pas toujours réussi, souvent très ambigu, souvent très problématique sur la représentation de la Shoah. Et à mon sens, la zone d'intérêt avec Nuit et brouillard d'Alain René, avec évidemment Shoah de Claude Lanzmann, avec aussi le fils de Saul de Laszlo Némès plus récemment, rajoute une pierre à l'édifice autour de cette représentation malgré tout nécessaire de la Shoah au cinéma, parce que c'est fait avec beaucoup, beaucoup d'intelligence, avec beaucoup, beaucoup de sérieux et avec un travail sur le dispositif aussi très, très riche. Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur Glaser, parce que au contraire, Glaser me semble un des rares cinéastes contemporains qui pense de manière très intelligente et très réfléchie ce qu'il est en train de faire avant qu'il le fasse. C'est-à-dire qu'il réfléchit à un dispositif. C'est quelqu'un qui vient de la publicité, c'est quelqu'un qui vient du clip, donc c'est quelqu'un qui vient de la forme à la base, plutôt que du scénario ou de l'écriture. Mais il n'est pas en train de faire de la forme pour faire de la forme, il réfléchit à comment est-ce que cette forme-là peut ajouter au récit, peut ajouter à la compréhension et peut ajouter à la réflexion. Par exemple, donc il a tourné la maison, en l'occurrence, qui est construite à côté du camp, existe encore. Elle est habitée aujourd'hui par une famille polonaise. Et quand ils sont arrivés sur place, Jonathan Glaser et son équipe, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ne pourraient pas se tourner dans cette maison parce que le temps à passer fait que si on devait remettre cette maison comme elle l'était à l'époque, il y aurait une impression de faux, c'est-à-dire on filmerait quelque chose qui ne semblerait pas réel. Et au contraire, il a préféré reconstruire presque à l'identique cette maison en prenant soin de reprendre les détails de l'ameublement de l'époque, ce détail qu'on retrouve aussi dans les costumes que portent les personnages. Donc il y a une attention vraiment documentaire à comment ces gens vivent, et qui me semble vraiment, vraiment très intéressante. Et puis, un dispositif, il a utilisé une expression qui a aussi été beaucoup, beaucoup critiquée, Jonathan Glaser, en disant que c'était Love Story à Auschwitz, mais parce qu'autour de son dispositif, c'est-à-dire il reprend le dispositif de la télé-réalité. Il met à l'intérieur de cette maison différentes caméras, et les comédiens jouaient, sans savoir quelle caméra les filmer à quel moment, et sans que l'équipe technique soit là, sur place, dans le décor, pour leur dire « couper ». Donc, ils ne savaient pas exactement quand est-ce qu'ils s'arrêtaient. Ce qui crée aussi cette impression de réel très, très forte, très et parfois presque malaisante, gênante à plusieurs moments. Mais on est au plus proche de la réalité du quotidien de ces gens-là. Alors, on a dit beaucoup de choses sur ce film. On a dit effectivement que c'est la banalité du mal, qui sont des choses qu'on a beaucoup, beaucoup, sur lesquelles on a beaucoup, beaucoup travaillé ces dernières années. Effectivement, on se rend compte que ce fonctionnaire, chef d'Auschwitz, ben, en fait, il dirige Auschwitz comme il dirigerait son usine, avec sérieux, voilà, il essaye de faire ça le mieux possible, mais il n'a pas l'air détestable comme ça, même si c'est quelqu'un évidemment d'horrible. Mais c'est fonctionnaire banal, voilà, c'est le truc d'Anna Arendt assez classique. Mais c'est pas là-dessus, je pense, que le film est le plus intéressant. Le film est le plus intéressant sur la femme, Edwige, qui, elle, me semble, ce personnage nous raconte quelque chose que j'ai vu très peu raconter sur l'histoire du nazisme. C'est quelqu'un qui a tout grâce au nazisme, c'est-à-dire qu'elle a une ascension sociale, elle a même plus une revanche sociale par rapport à son milieu d'origine, grâce au nazisme, et la manière dont elle va récupérer les vêtements, parce qu'ils sont les premiers à récupérer les vêtements que les juifs ou les déportés amènent avec eux quand ils arrivent au camp, la manière dont elle récupère ça, cette espèce de violence, de vengeance et de haine profonde envers ces déportés, qui rejoint sa revanche sociale, qui rejoint une espèce de manière de se dire bah, « moi, d'où je viens, voilà où je suis maintenant », et c'est pour ça qu'elle ne veut pour rien au monde quitter, quand il est question de partir du camp, quitter Auschwitz, parce que pour elle, c'est le bonheur absolu, et elle n'arrive pas à comprendre que sa mère, que les personnes qui viennent en visite ne voient pas cette espèce de richesse qu'elle a accumulée en étant arrivée à cette position-là. Donc c'est un personnage évidemment horrible, et un personnage aussi passionnant, parce qu'il raconte quelque chose de très juste aussi sur ce qu'a été, je pense, le nazisme, et qui est finalement assez peu raconté. Donc il y a beaucoup de choses assez intéressantes, et c'est grâce au dispositif que Glaser arrive à nous raconter ça. Je pense que s'il avait fait un film, entre guillemets, conventionnel, découpé de manière habituelle, etc., on n'aurait pas eu cette impression de réel si forte, et on n'aurait pas eu cette compréhension des personnages aussi forte. Donc c'est pour ça aussi que c'est quelqu'un qui parle intelligemment de son dispositif. Alors, il peut utiliser des expressions qui peuvent, sorties de leur contexte, sembler choquantes ou étranges, mais elles sont, à mon sens, très appropriées et très, très intéressantes aussi à creuser.
Ça, j'ai l'impression qu'on a tous les trois aimé le film, donc il n'y aura pas de débat sur le fait d'aimer le film ou pas. J'ai envie juste de chipoter ou d'apporter une petite contradiction. Non, mais sur le côté banal, la banalité du mal, c'est vrai que c'est une grande question. Moi, dans ce film, je ne l'ai pas forcément ressenti dans la mesure où je trouve qu'il y a une froideur, quelque chose de très clinique, où finalement, ils sont dévitalisés. Ils sont presque monstrueux à l'image. Ils ont une représentation de monstre. C'est pas comme s'il y aurait eu une esthétique de sitcom où ils seraient en train de se tapoter, se prendre dans les bras, rigoler, etc. Et hop, il y aurait l'horreur à côté. Je trouve que l'horreur fait déjà partie d'eux. Donc, il y a cette chose-là de monstrueux. Et je trouve que moi, ce que j'ai préféré dans le film, au-delà de ce que tu dis, que j'ai tout à fait ressenti sur ces nouveaux riches qui trouvent une opportunité de travail grâce à ces camps, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment ce film se contamine progressivement pour devenir un film d'horreur. Comment cet enfant, par exemple, qui s'amuse dans sa chambre, finit par entendre des cris dehors, il s'approche de la fenêtre. Donc, c'est ces percées comme ça du monde extérieur sur le monde intérieur. Et comment même l'image elle-même devient une image d'horreur parce qu'elle est elle-même contaminée formellement par des scènes qui viennent la broyer en quelque sorte. Et ça, même visuellement, je trouve ça, et la musique, le son, comment ce son du quotidien va progressivement être contaminé par un son dissonant et une alarme assourdissante.
Oui, ce qui est intéressant, c'est aussi après le film de Saul, où il y avait peut-être qu'on pouvait reprocher une esthétique de jeu vidéo au film. Là, on a, mais pas tout le temps non plus, cette esthétique de caméra de surveillance qui fait penser effectivement à Love Story, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de se demander aujourd'hui, finalement, si on ne peut pas raconter, pour intéresser aussi les gens à ce génocide, utiliser des moyens formels très contemporains, en fait. Et c'est ce que fait le film, quelque part, en expérimentant la forme.
Oui, et puis on peut se poser la question, à quoi ça sert de faire un film de plus sur la Shoah ? Il y en a tellement, on sait ce qu'a été la Shoah, on sait ce que c'est. Alors il faut continuer à le dire, il faut continuer à le montrer, mais pourquoi en faire un de plus ? À nouveau, parce qu'il répond à une question qui me semble aussi fondamentale, c'est qui étaient ces gens ? C'était pas juste dire c'est des monstres, ça veut rien dire en fait. À partir du moment où on dit ça, c'est des monstres, du coup c'est pas nous, ils sont très différents de nous. Maintenant en fait, ça pourrait être, c'est ça qui est horrible, c'est que ça pourrait être n'importe qui. Et on comprend pourquoi est-ce qu'ils en arrivent là. Ça veut pas dire qu'on se met à leur place, mais on arrive à les comprendre, on arrive à s'interroger, on arrive à les voir, on arrive à être avec eux un temps donné. Et ça, c'est quelque chose de plus qu'on n'avait pas dans les films précédents et qui vient apporter quelque chose de supplémentaire à cette grande question de la Shoah et sur tous les génocides d'ailleurs de manière générale.
C'est une pièce manquante, c'est un film pièce manquante, ouais, aussi,
exactement.
Quelque part, par rapport à tout ce qu'on a pu voir.
Zone of Interest, donc, de Jonathan Glazer. À l'instant, une musique de percussion. On voit comment la musique de film peut aller dans des territoires sonores et musicaux très différents les uns des autres, et dans le minimalisme aussi. Donc là, c'est la partition de Dominique Plante, qui est le frère du réalisateur Pascal Plante. Un film, donc ce sont des Québécois, film donc canadien, Les Chambres Rouges.
Chambre Rouge, donc, de Pascal Plante avec Juliette Garriépy et Laurie Forta-Babin notamment. Deux jeunes femmes se réveillent chaque matin aux portes du palais de justice de Montréal pour pouvoir assister au procès hyper médiatisé d'un tueur en série qui les obsède et qui a filmé la mise à mort de ses victimes. Cette obsession maladive les conduira à tenter par tous les moyens de mettre la main sur l'ultime pièce du puzzle qui pourrait permettre de définitivement confondre celui que l'on surnomme le démon de Rosemont, la vidéo manquante de l'un de ses meurtres.
Bernard. C'est vrai qu'on disait qu'il y avait un lien entre les films.
Ouais.
Ouais. Et c'est vrai que ça circule d'un film à l'autre, quoi. Même la bête avec l'image d'un tueur. Là, il y a cette fascination du mal, un peu comme dans Mad Hunter, la série de David Fincher, en fait, où il y a une fascination comme l'enquêteur dans Mad Hunter. Là, c'est vraiment des témoins d'un procès. Donc, on peut dire que c'est un film de procès, mais tout sauf le procès Goldman. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le naturalisme. Et moi, j'ai aimé comment ce réalisateur va traiter du film de procès, dans un formalisme à l'extrême, où il colorise l'image pour nous mettre finalement dans la tête de ces jeunes femmes fascinées par le mal. On est vraiment littéralement dans un film extra subjectif où on est dans la tête, donc c'est vraiment psychologique en fait, où la forme va prendre des accents baroques pour nous représenter en quelque sorte la fascination de ces deux jeunes femmes.
Oui, parce que ça raconte, ça filme le procès dans les 25 premières minutes, mais après, ça devient autre chose aussi, et ça devient un film sur ces jeunes femmes-là, et sur leur fascination des serial killers, enfin leur admiration et leur fascination pour les serial killers, ce qui est déjà en soi un sujet très étonnant, quoi. Je m'étais jamais forcément intéressé à ça, donc le film m'a appris beaucoup de choses aussi là-dessus. Et après, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une amitié qui se construit entre les deux femmes, et une sorte de rivalité aussi sur le fait que l'une a vu ces fameuses vidéos, il faut rappeler donc que c'était Chambre Rouge, donc c'est ces fameux films qu'on trouve sur le dark web, diffusion en direct d'atrocités, et qui sont évidemment au cœur du film, au cœur du procès, puisque ce sont des films réalisés par ce serial killer. Le film, il a aussi un rythme, une construction très étrange, puisque donc il y a tout ce début où on a vraiment l'impression, avec les différents monologues des avocats, des juges, d'être vraiment au cœur d'un procès, et après on part sur autre chose avec comme ça une forme de lenteur et d'étrangeté, et en même temps des accélérations comme ça très très curieuses, comme il y a une scène de vente aux enchères justement pour sur le dark web avec Bitcoin pour trouver la vidéo manquante, parce qu'il y a une vidéo manquante que tout le monde recherche et qui prouverait en plus la culpabilité de l'accusé. Et donc voilà, moi ce que j'ai aimé beaucoup, c'est cette construction, quitte à avoir d'ailleurs une fin assez accélérée, assez abrupte, que je reprocherais presque par rapport au reste du film, ou de rester un peu sur sa fin. Et puis y a, effectivement, ça pose aussi la question de comment montrer ces chambres rouges. Donc effectivement, ça passe beaucoup aussi par le son dans le film, mais il y a quand même un plan assez large, où on voit quelque chose, on voit donc du coup une reconstitution de ce qu'a pu être une réelle chambre rouge dans le film. Et puis mais à la limite, ce qui est absolument effrayant dans le film, c'est un regard caméra. Je pense qu'il y a dans le film un des regards caméra les plus effrayants jamais vu au cinéma, avec un cri accompagné d'un cri assez saisissant, et ça c'est aussi ça fait partie aussi des particularités de ce film. Pierre,
il y a plusieurs époques, on pourrait dire, dans le cinéma québécois contemporain. Il y a eu d'abord Denis Villeneuve, Denis Arcand, Jean-Marc Vallée. Cette époque est maintenant malheureusement terminée. Denis Villeneuve est allé à Hollywood. Jean-Marc Vallée nous a quittés il y a 2 ou 3 ans, et Denis Arcand fait maintenant des films qui n'intéressent plus personne.
Sauf Benoît.
Sauf Benoît, c'est ça.
Par rapport à quoi, pardon?
Par rapport à Denis Arcand, non?
Non,
ah,
non,
j'aime pas du tout.
Ah non, non, bah,
ah, voilà. Parce que je crois, tu levais la main.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Voilà, vous écoutez Aligre FM, et je vous parlais donc des différentes époques du cinéma québécois. Maintenant, effectivement... après Denis Villeneuve, on a eu Xavier Dolan, qui a un peu pris la place de tous les autres. C'est difficile d'exister en tant que jeune cinéaste québécois, tandis que vivait Xavier Dolan. Maintenant, Xavier Dolan a décidé de prendre un peu du recul. Il a annoncé dans un entretien au Monde en début 2023 qu'il voulait arrêter le cinéma. Ça tombe bien, parce que du coup, on a de nouveaux jeunes cinéastes québécois qui émergent. Il y a notamment Ariane Louis XVI, qui a fait un film qui s'appelle Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant, qui sortira prochainement, qui s'est déjà fait remarquer dans les courts-métrages. Et puis donc Pascal Plante, donc c'est là le troisième long-métrage, et qui est vraiment un bijou de mise en scène clinique, un travail sur la musique, sur le son et sur des personnages complètement énigmatiques dont on a du mal à comprendre ce que cherche exactement ce personnage principal interprété par Juliette Garriépy, qui est vraiment extraordinaire dans ce rôle, cette jeune femme ultra edgy qui semble chercher quelque chose de plus qu'elle n'arrive pas à obtenir à travers cette recherche des snuff movies et ces films donc de torture dont on a parlé, qui existent ou existeraient dans le dark web. Ça me fait pas mal penser à un passage dans Moins que Zéro de Bret Easton Ellis, où le personnage principal est dans une fête avec plein de jeunes gens, tous extrêmement riches, qui ont tout et qui peuvent tout avoir. Et puisqu'ils peuvent tout avoir, ils sont à la recherche de la chose la plus secrète, la chose la plus difficile à avoir, la chose la plus élitiste en quelque sorte, à savoir des vidéos de meurtres de jeunes gens. Il y a tout un passage dans Moins que Zéro sur les snuff movies qui fait pas mal penser, je trouve, au personnage de Juliette Garriépy, à ce que cette jeune femme recherche. Et puis sur cette représentation aussi de quelque chose d'ultra contemporain, du dark web, des secrets du dark web, il y a quelque chose d'assez... presque romantique ou mystérieux. Enfin, c'est vrai, il y a un travail autour de ça, des secrets cachés, assez romanesques à faire. Et je trouve que le réalisateur Pascal Plante arrive très bien à le faire, à nous emmener un peu... on a envie de voir et en même temps, on n'a pas envie de voir. On a envie de savoir qu'est-ce qui se cache dans... qu'est-ce qui est le plus horrible qui peut se cacher à l'intérieur de ça. Et ça me fait penser à un autre film qui est très réussi, que je vous conseille, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Unfriended Dark Web, qui est donc le deuxième film de la franchise Unfriended, qui sont des films qui se passent uniquement du point de vue d'un ordinateur, un peu comme les films Missing et Searching qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Donc on ne voit rien d'autre que le point de vue qu'un ordinateur, en fait, qu'un écran d'ordinateur, et on se retrouve face à un personnage qui va devoir aller dans le dark web pour chercher quelque chose, et sur son chemin vers le dark web, il va rencontrer des choses assez mystérieuses et horribles. Et donc il y a une espèce de chemin secret qui se trace uniquement à travers l'ordinateur. Voilà comment est-ce qu'on peut partir dans de longs et terrifiants voyages en étant derrière son poste.
Et dans les chambres rouges, alors ce qu'il faut dire, c'est que donc tout ce que l'on évoque, c'est-à-dire le dark web, les tortures, on ne les voit jamais. Donc en fait, le film, moi, c'est ce que j'ai aimé dans le film, enfin quasiment, enfin mais c'est à peine. Ce qui est intéressant, c'est comment le film va aussi générer chez nous, spectateurs, une fascination par ce hors-champ qu'en fait, il retarde au maximum en fait le fait de voir un peu. Et donc il y a cet aspect, une temporalité lente, comme un flottement. Donc c'est un film presque fantomatique comme ça. Qui va se dévoiler progressivement. Le récit, on ne comprend pas tout, en fait, comme un puzzle qu'on va essayer de reconstituer. Et en plus, ce personnage, la femme principale, qui est opaque, mutique, qui s'exprime peu, donc on ne sait pas trop quelles sont aussi ses intentions. Et donc tout ce côté opaque, moi, je trouve, a généré une fascination. Et donc, du coup, nous, spectateurs, où on se situe par rapport à ce criminel? C'est toute une question aussi qui est intéressante.
Oui, il y a une scène... génial de mise en scène où elle arrive au sein du procès habillée comme une des victimes en cherchant effectivement le regard du tueur, et ça c'est accompagné par une musique qui est déchirante, qui est très grandiose mais qui fonctionne vraiment superbement bien et qui est glaçante, quoi.
Quand se termine par le petit geste de l'accusé du serial killer, justement, qui la reconnaît quelque part,
le seul signe d'humanité chez lui, quoi. Entre guillemets, parce que voilà, c'est un signe de lien affectif.
Oui, c'est drôle, c'est un film de procès, mais le serial killer est là, et en fait, c'est assez anecdotique, le fait qu'il soit coupable ou pas, ça, on s'en fiche un peu, en fait. Le personnage principal, le sujet, c'est de voir ces snuff movies, c'est ce mystère-là autour de ces vidéos-là, quoi. C'est-à-dire on se détourne de l'attention qui semble être la première au départ. Et puis on voit à quoi ressemble un procès au Québec. Hein. On a vu comment c'était les procès en France, avec différents films de procès, dont on a un très fameux très récemment. On a vu des films de procès aux États-Unis, mais au Québec, c'est un peu différent, semble-t-il, une sorte de mélange entre le système judiciaire français et le système judiciaire américain, avec tous leurs ordinateurs là posés. Je trouve qu'en termes de lieu, de décor, de cinéma, c'est un décor assez original, quoi. C'est pas du tout une salle de procès un peu grandiose comme on peut en voir dans certains films. C'est quelque chose d'assez... une petite salle du Palais de Justice de Montréal.
Glacial.
Assez glacial, oui. Ouais.
C'était donc Les Chambres Rouges
de Pascal Plante.
ces quelques notes de guitare dans l'esprit catalan de Dali, le film de Quentin Dupieux. Ces notes de guitare sont signées de manière improbable par Thomas Bangalter, qu'on avait évidemment connu dans un tout autre registre plus électronique avec Daft Punk. Cette guitare revient, ce thème, ce motif revient de manière lancinante, répétée, comme les nombreux rêves enchâssés du film.
C'est donc Dali avec 6A, réalisé par Quentin Dupieux, avec Anaïs Demoustier, Gilles Lelouch, Édouard Baird, Pio Marmaille et puis plein d'autres talents du cinéma français. Une journaliste française, ça c'est Anaïs Demoustier, rencontre Salvatore Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Voilà, je fais cette imitation parce qu'elle est récurrente dans le film, le 12e film de Quentin Dupieux et le 5e film en 4 ans. Hein, très très... Très bon rythme, ce cher Quentin. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Déjà, t'aurais pu faire le 7e Dali.
Ah, avec plaisir, ça aurait été un bonheur.
Et t'aurais été meilleur que Pio Marmaille, qui est le moins bon des Dali. Ouais. Parce que c'est vrai que voilà, le fait de. C'est à la fois quelque chose de, je trouve, d'assez réjouissant et en même temps qui a ses limites, le fait de faire interpréter Salvador Dali par plusieurs acteurs. C'est qu'au bout d'un moment, il y en a un qui réussissent beaucoup plus, comme Édouard Baird ou Jonathan Cohen, que Pio Marmaille ou Gilles Lelouch, même si Gilles Lelouch, je tente quand même un truc. Mais voilà, donc ça c'est pour la partie étonnante d'avoir un personnage interprété par 6 acteurs. Après, effectivement, c'est toujours un peu la même chose chez Dupieux, dans le sens où y a toujours une idée très forte de départ. Et puis après, c'est comment on tient 1h18, en l'occurrence. Ouais. Et ça, c'est toujours un peu compliqué. Même s'il fait des films très courts, il y a toujours un moment où ça s'essouffle, où la construction, en tout cas, ne mène nulle part. Ouais. C'est ça le petit problème pour moi du film, même c'est un gros problème. Mmh. C'est-à-dire que ce truc du rêve dans le rêve, etc., cette espèce d'enchâssement de poupées russes, mais aussi tout le travail de rime, de boucle qui passe aussi beaucoup par la musique, puisque chaque séquence débute par ce thème et ce sera le thème unique du film. Au bout d'un moment, ça s'épuise quelque part. Ouais. Et c'est ça que je reprocherais au film, même s'il y a des choses quand même très amusante, très réjouissante, ne serait-ce que la première séquence où ce Dali arrive du fond du couloir et puis il n'arrive pas, parce qu'il y a un travail évidemment sur le temps dans le film, le temps et l'espace. Et ça, c'est plutôt une des bonnes scènes du film. Après, il y en a des moins bonnes.
Moi, j'en attendais beaucoup de ce film et j'ai été déçu. J'ai été déçu puisque, pour moi, le film est resté au stade un peu de théorie, d'emboîtement, de boucles narratives, des allongements du temps, des inversions ou quand il s'exprime à l'envers. Pour moi, tout est trop limpide. Le film n'a aucun mystère, alors que Dali pourrait en avoir. Le film est dévitalisé. Aucun personnage n'existe pleinement. La journaliste, d'ailleurs, est complètement dévouée à son rôle de cruche, moi je trouve dommage. On dit qu'elle est boulangère, bon d'accord, mais elle pourrait avoir aussi une existence autre. Donc le film voilà est décevant, trop évident et trop presque annoncé. C'est-à-dire que voilà, les autres films qu'on a abordés ici ont un mystère, ont des zones un peu plus souterraines. Je trouve que ce film se contente d'être en surface. Dali en fait pour Dupieux est un folklore. La musique catalane d'ailleurs en est une prolongation. C'est-à-dire que c'est le folklore, mais en fait on ne sait pas à la fin qui est Dali, ou alors on le sait trop, ce qui fait qu'il n'y a aucun mystère sur le personnage Dali non plus.
Oui, c'est un film de Quentin Dupieux, quoi. C'est rigolo, on passe pas un mauvais moment, c'est assez court, hein, 1h16, donc voilà, si jamais on s'ennuie, on sait que ça va pas durer très longtemps. Il y a des blagues quand même assez efficaces, les acteurs sont de manière assez inégale, mais tous plutôt bien, avec une mention spéciale pour Édouard Baird, qui est vraiment un très très bon Dali. Puis on a Romain Duris dans un personnage de non-Dali, donc un personnage qui n'est pas Dali, le secondaire de producteur, qui est plutôt pas mal. Il y a des idées assez originales, il y en a d'autres qu'on a déjà vu beaucoup, voire beaucoup, beaucoup dans les précédents films de Quentin Dupieux, le fameux coup du rêve. Alors il fait ça très très bien, hein, du rêve dont on ne sait pas à quel moment le rêve se termine et commence. Il est très très fort pour faire ça, mais au bout d'un moment, on a un peu compris. Après, je préfère ce type de film-là au film précédent, par exemple, qu'il a fait, Yannick, avec Raphaël Quenard, qui avait une tentative de propos un peu politique ou qui ne m'a pas semblé très, très intéressante, voire même un peu dérangeante, un peu populiste sur les bords. Alors que là, il n'y a pas vraiment de propos politique. C'est un film hommage, non pas... non pas à Dali l'artiste, mais à Dali la figure médiatique, un peu le Dali qu'on voyait à la télévision dans les années 70, faire des pubs et ce genre de choses, un peu ce personnage que Dali s'était créé lui-même, parce que finalement on n'apprend pas grand-chose, c'est pas le but de Dali en tant qu'artiste, on a juste un espèce de jeu autour de cette figure-là. Et c'est un jeu qui est quand même assez plaisant, on s'amuse assez bien, il y a des blagues qui sont plutôt pas mal, et franchement on passe pas, je trouve, un mauvais moment, à condition d'aimer Dupieux. Mais ça, il me semble que ça a moins de prétention que ses films précédents et je trouve ça mieux, quelque part.
Il faut qu'on termine cette émission avec la chanson du mois.
On s'était dit qu'on finirait cette émission chaque fois avec la chanson du mois. Et cette fois-ci, elle vient d'un film de plateforme.
Ah oui, alors c'est une chanson, c'est vrai qu'on a peut-être beaucoup entendu ces derniers temps, mais c'est pas grave, on va l'entendre de nouveau. On va se faire plaisir. C'est Emerald Ferrell qui nous a fait ressurgir, ressusciter ce tube dans son film Saltburn, qui était donc un film d'Amazon Prime Vidéo, film pas terrible au demeurant, mais qui a une excellente scène de fin sur laquelle on écoute ce Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis Bextor qu'on va écouter dès maintenant. Et puis nous, on se retrouve
le mois prochain.
Le mois prochain. Voilà.
Merci.
Merci. It's murder on the dance floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. 4, 3, 2, 1. Oh, about you.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.